Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma, une nouvelle fois installé au Club de l'Étoile à Paris, une nouvelle fois, dernière fois puisque nous concluons ici, et le micro déconne, et une nouvelle fois donc je disais, et une dernière fois puisque nous concluons ici notre cycle en duo avec Beats consacré aux films qui n'ont pas eu le destin qu'ils méritaient. Et pour cet épisode final, on va voir ou revoir ensemble Panique à Florida Beach de Joe Dante, et surtout on va en causer avec mon camarade de toujours Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas, mon camarade de toujours.
Cénociné Extra Ball spécial Panique à Florida Beach, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
On est en 93, Rafik, quand sort ce film. Qu'est-ce qui se passe ?
On est en juillet 93. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Avec le film ?
Avec le film, ouais.
Bah, il se passe qu'il y a Jurassic Park, tout simplement. Entre autres, Last Action Hero, entre autres. Un été bien rempli qui fait que, évidemment, par la force des choses...
C'est dur de s'aligner, ouais.
Ça passe complètement à la trappe, quoi. Il avait absolument aucune chance face à ces mastodontes. Voilà, c'est même pas quelque chose qu'il ambitionnait, de toute façon. C'est un projet qui est vraiment à cheval entre, on va dire, le film d'auteur, enfin la chronique d'auteur, et le souvenir, parce que c'est déjà du souvenir, de ce qu'ont été les productions Amblin des années, ouais. Des années 80, Joe Dante, évidemment. Donc, ça a été une des plus belles révélations de l'écurie de Spielberg durant ces années-là. Il s'est tiré une balle dans le pied. Enfin, on peut dire que quelques années auparavant, Gremlins 2 avait été une forme de suicide artistique, puisqu'il n'avait manifestement pas envie de jouer le jeu de la séquelle et qu'il a préféré en gros tout casser. Ça a donné un film qui, même s'il a bien marché en salle, était un énorme échec par rapport aux attentes qui avaient été posées dessus, donc il était déjà plus trop en odeur de sainteté. Et son film précédent, lui, avait été un échec incompréhensible. On l'avait passé d'ailleurs dans notre cycle, c'était L'Aventure Intérieure. Donc avec ces deux échecs-là, il n'est pas forcément
au mieux de sa forme.
Néanmoins, il va, plutôt que d'essayer d'aller draguer les majors sur d'énormes projets, il va préférer se concentrer sur ce film-là, qui au départ, c'est un script d'un gars qui s'appelle Jericho Stone, que son producteur, le producteur de Dante, Michael Finnell, a déniché, en estimant que ça pouvait correspondre au côté un peu nerd geek, enfin movie geek de Dante, puisque ça parlait au départ d'un film sur une salle de théâtre hantée que des adultes venaient visiter, sur laquelle eux avaient des souvenirs d'enfance, justement. Mais ça jouait beaucoup sur... Il y avait une espèce de distanciation un peu ironique, et puis surtout, c'était un truc de maison hantée. Donc, ce que Dante va faire, c'est qu'il va garder simplement l'idée de revisiter ce souvenir d'enfance, et puis tant qu'à faire, pourquoi pas revisiter ses souvenirs d'enfance à lui. Et donc c'est littéralement comme ça que le script va être développé par Charles Haas, qui avait coécrit déjà Gremlins 2, et qui ensuite développera pour Joe Dante un projet qui s'appelle Termite Terrace, qui devait être consacré à l'écurie Warner, des dessins animés Warner, en fait, les Chuck Jones, ouais. Et compagnie, qui ne se fera pas. Dante va en faire vraiment quelque chose d'autobiographique, puisque c'est vraiment, pour le coup, un des symboles de tous ces cinéastes. Il n'est pas le seul, mais lui, il est peut-être le plus geek de tous, quelque part, que sont les John Landis, les Spielberg, même des gars comme Jonathan Demme, etc. Ils ont tous grandi à cette même époque. Ils ont dans les années 60, ils ont découvert donc ces films bis d'horreur mal aimés, un peu opportunistes, tournés à la va-vite, sur lesquels ils ont scotché, développé un amour inconsidéré et qui les a menés peu à peu vers ce qu'allait devenir une cinéphilie un peu plus entre guillemets sérieuse à la fin des années 60. Généralement, époque à laquelle ils ont commencé soit à aller faire des études de ciné, soit à rentrer dans les écoles et donc donner cette génération qui ensuite dans les années 80 va réussir enfin à marier on va dire l'esprit du cinéma d'auteur européen avec la franche rigolade de ses productions pour enfants des années 50-60. Là-dessus il a l'intelligence de greffer ce qui était le sentiment majeur de cette époque-là, parce qu'évidemment il y a un voile nostalgique qui a été porté sur ces années-là, comme il est porté aujourd'hui sur les années 80, qui fait oublier l'angoisse propre à cette décennie, et l'année 62 bien sûr, c'est l'année de la grosse crise des missiles de Cuba.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
De ce bras de fer comment il s'appelle,
Kennedy
merci, et Khrushchev, qui aurait dû mener à la Troisième Guerre mondiale, et durant laquelle les adultes étaient convaincus qu'ils n'allaient pas forcément se réveiller le lundi suivant. Quoi. Comment les enfants ont traversé cette époque, en fait, et c'est important, il va beaucoup jouer là-dessus, sur cette idée que c'est au croisement de ces deux pôles, en fait, que va se créer cette identité geek qui fera celle des années 80. C'est-à-dire, si c'était juste le goût pour la fantasy ou la SF pulp, c'est pas suffisant, en fait. Il faut le rajouter à la véritable angoisse d'un réel qui est systématiquement menaçant et qui explique qu'on aille chercher de la poésie dans ces trucs horrifiques, en fait. Donc le gamin du film est vraiment calqué sur Dante, à tel point qu'on le voit lire des fameuses Monsters of Filmland, qui était vraiment la revue, en gros c'est ce qui a été à la base de revues comme Mad Movies en France, etc. C'est le fanzine,
c'est la référence,
voilà, des amoureux de l'horreur à cette époque-là. Il faut savoir que Dante avait écrit à ce magazine un long courrier des lecteurs dans lequel il avait mis les 50 pires films de l'histoire d'après lui, et ça avait suffisamment impressionné Forrest J. Ackerman pour qu'il en fasse un article, en fait. Il en a tiré un article qu'il a appelé Dante's Inferno, comme c'est original, l'enfer de Dante, avec donc tous ces films-là. Voilà. Et ce qui était marrant, c'est que James H. Nicholson, le producteur, avait appelé pour se plaindre parce que il produisait des films, films d'horreur, et évidemment il y avait certains de ses films qui se faisaient casser dedans, et en gros Famous Monster of Filmland, c'était la seule revue qui était censée dire du bien de ses films, et elle se trouvait à en dire du mal. Ce qui est rigolo, c'est que James H. Nicholson, c'est le collaborateur de Roger Corman, qui des années plus tard va engager Joe Dante comme monteur et ensuite comme réalisateur. Mais Dante on l'oublie, mais a un peu écrit du coup dans la presse dans les années 60 à la suite de ce coup d'éclat en 62, donc. Donc voilà, c'est donc extrêmement autobiographique, mais pas seulement autobiographique au sens voilà, c'était bien, je kiffais, mais vraiment, qu'est-ce qui a fait mon identité, en fait, et à travers moi, à travers cette histoire-là, l'identité de toute cette génération. Donc c'est un film qui explique plus quelque part ce qu'ont été les années 80 que ce qu'ont été les années 60, en fait. On voit l'origine, c'est années 80 origins, voilà, on pourrait l'appeler comme ça, Panic sur Florida Beach. La boîte de prod qui a développé le projet va faire faillite, en fait, et ils vont devoir aller un peu à la pêche, et le studio Universal va récupérer le bébé. Un peu parce que, en gros, c'est le souvenir du réalisateur de Gremlins, d'une part, et puis parce qu'il a quand même un casting qui n'est pas inintéressant à l'époque, puisque John Goodman, qui avait été longtemps cantonné à des seconds rôles à peine visibles, en fait, a eu deux coups d'éclat d'affilée, qui a été, bon, il y avait eu le succès d'Arachnophobie, dans lequel il jouait un personnage absolument truculent que le public avait bien remarqué, et surtout la Palme d'Or de Barton Fink, qui a révélé qu'il était un acteur, un vrai, sur lequel on pouvait faire reposer des choses, quelque chose, bon. Et donc, avoir John Goodman au casting pouvait devenir un petit peu bankable. Donc Universal a dit banco, mais n'a pas forcément, on va dire, beaucoup soutenu le film. Encore une fois, ils avaient Jurassic Park.
Ils avaient autre chose à faire.
Ils avaient autre chose à faire, ouais. mais Dante n'en demandait pas plus, finalement. Simplement, le fait que le film puisse exister, c'était déjà un soulagement en soi. Donc on a dans ce film, comme on peut s'en douter, une quantité délirante de références qui sont pas toujours explicites, hein, bien sûr. Donc à travers le personnage de John Goodman, qui est donc ce réalisateur showman, bonimenteur, en fait, une sorte de Hitchcock des bas-fonds, qui fait évidemment référence comme beaucoup l'ont constaté à l'époque, à William Castle, qui était donc connu pour ses happenings pendant les, pendant les séances. Voilà. Je resitue quelques films de Castle. On a le désosseur de cadavres, qui s'appelait The Tingler en anglais, 13 Ghosts, Mr. Sardonicus, Zotz, une comédie que j'aime bien parce que c'est une comédie dans laquelle on a le premier bullet time de l'histoire du cinéma.
C'est vrai ?
Oui, on a littéralement un gars sur un toit avec deux gars qui lui tirent dessus et qui évite les balles parce qu'il peut jouer sur le temps. Alors, sauf que c'est fait avec une balle accrochée à un fil, hein,
oui,
mais
bien sûr.
Bon, mais quand c'est même l'idée était, là, quoi. L'idée était là. La nuit de tous les mystères que vous connaissez peut-être sous le titre House on Haunted Hill,
sont plus connus.
Et donc ces films. C'était pas super bon, hein, William Castle, mais le spectacle était souvent dans la salle et dans son art consommé du spectacle. Ça n'a pas empêché d'avoir tout un tas de fans. Plus célèbres, c'est Robert Zemeckis, qui était tellement fan de William Castle qu'il a carrément décidé de créer sa boîte Dark Castle Production, qui avait visé au départ à faire des remakes de films. Ils ont refait un remake de 13 Ghosts et un remake de House on the Haunted Hill avec Joel Silver, producteur de Matrix. Donc, tout se recoupe. Mais celui qui est sans doute le plus gros fan de William Castle au monde, c'est John Waters.
C'est John Waters, ouais.
Qui a vécu ces séances-là et qui, par exemple, sur le film. Tingler, le procédé que Castle avait mis en place dans la salle, c'était que certains des sièges étaient buzzés, en fait. Ouais. Alors, on dit électrocutés, mais en fait, non, ils n'allaient pas électrocuter le public. Mais ça buzzait, ça faisait un petit effet dans les fesses, pour surprendre pendant la projection. Et John Waters, en fait, en gros, il regardait sous les sièges pour voir lequel avait un buzzer pour être sûr que ses fesses allaient vibrer pendant le film. Et il considère qu'il est devenu cinéaste grâce à William Castle.
Oui, à cause de William Castle. Ouais. Il a incarné d'ailleurs William Castle
dans un documentaire
dans un épisode de série télévisée
tout à fait j'ai plus le titre de la série il y avait un épisode où il y avait William Castle a fait tourner John Crawford, ils avaient fait un truc autour de John Crawford et Bette Davis, effectivement. Du coup il y avait une séquence avec William Castle
incarné William Castle,
tout à fait. Tu veux le faire?
Non, certainement pas.
Non, mais voilà, et sa carrière s'est un peu terminée en queue de poisson, hélas, puisque il s'est battu comme un fou pour avoir les droits avant sa publication d'un roman qui s'appelait Rosemary's Baby, dont il voulait absolument assurer l'adaptation. Ouais. Et la Paramount à l'époque était très intéressée par, bien sûr, les droits du roman, mais pas du tout par William Castle, et préférait leur mettre un réalisateur déjà d'ampleur qui était Roman Polanski, et Castle s'est retrouvé simple producteur.
Ouais.
Mais il n'a jamais pu vraiment bénéficier du succès du film parce qu'il est tombé très malade au moment où le film est sorti. Bref,
apparaît d'ailleurs dedans.
Oui, il joue lorsqu'elle sort de la cabine téléphonique et qu'elle est effrayée par un monsieur. C'est lui, tout à fait. Donc voilà, Laurence Woolsey, le personnage de John Goodman, fait évidemment référence à William Castle. Son nom aussi vient de Laurence Woodner, qui était un producteur de ce type de film-là dans les années 50-60, comme l'attaque de la femme de 50 pieds ou Hercule à la conquête de l'Atlantide de Mario Cotafavi, figure-toi, pas n'importe quoi, et qui est devenu un petit temps le collaborateur de Roger Corman aussi, avant d'aller fonder sa propre boîte Dimension Pictures dans les années 70. On a ça. Et puis on a bien sûr les films dans le film.
Oui.
Puisque donc ça commence avec une bande-annonce d'un film qui s'appelle Mant, qui se veut un peu un patchwork de tout ce qui faisait kiffer le John Joe Dante dans les films d'horreur de cette époque-là. Donc, et qui est un moyen-métrage qui a été tourné avant le tournage, parce qu'ils devaient utiliser des images du film dans le film. Donc évidemment, on le tourne avant. ils ont tourné et monté environ 30 minutes dans mon souvenir. Ces 30 minutes étaient disponibles dans une édition spéciale en laserdisc. Le fameux laserdisc. Je ne sais pas si c'est le cas sur le Blu-ray. J'espère que quelqu'un a retrouvé la copie de ceci. Aussi. Mais on voit que c'est un truc qui a été fait vraiment avec amour, qui ne ridiculise pas en fait le autant qu'on pourrait l'imaginer, ces films-là. Oui. Dante, par exemple, fait remarquer que dans Mant, les effets spéciaux ne sont pas nuls. Ils sont aussi bons que pouvaient l'être des effets spéciaux de 1962, en fait. Tu vois. Et il a demandé vraiment à ses artistes, parce que c'est vraiment des vrais gars d'effets spéciaux qui ont bossé sur les effets spéciaux de Mant pour faire à la manière de. Et il y a également un autre Un autre film qui est une espèce de parodie des productions Disney qui vont arriver à la fin des années 60, début 70, qui s'appelle donc The Shook Up Shopping Cart, dans lequel on peut voir débuter une jeune Naomi Watts. Voilà, tout à fait. Donc voilà, on a tout cet aspect de culture nerd, bien sûr, qui est travaillé par le film, et toute une mélancolie qui est liée justement à l'imposition du monde réel et donc de la crise des missiles de Cuba, et de voir que finalement dans ce genre de crise, ça a presque été les enfants qui ont été les adultes en fait à cette époque-là. Il y a un switch un déplacement des rôles de génération qui s'est fait accidentellement à cette époque, puisque ça a été finalement à la charge des enfants de calmer le monde en fait, de leur dire que peut-être on avait une chance de ne pas crever dans d'atroces souffrances. J'imagine pas la phobie que les Américains ont pu avoir à cette époque-là, et on peut le comprendre, ils avaient quand même des missiles au-dessus de la tête. Donc ce switch, en fait, il annonce quelque chose qui va se passer à la fin des années 60. Il annonce l'état d'esprit d'une génération qui va se dissocier des adultes, en fait, et donc prendre son envol. Et d'ailleurs, il était prévu que le film se termine sur l'image des enfants qui partent sur la plage, et finalement, il a été décidé de mettre cette image d'hélicoptère à la fin, et pas forcément totalement gratuite, puisque c'est le modèle d'hélicoptère qu'on va retrouver au Vietnam. Et qui donc annonce aussi que beaucoup des enfants qu'on a vus dans le film vont probablement finir dans ce bourbier-là, qu'ils n'ont pas demandé, et tandis que leurs copains, eux, iront manifester pour empêcher cette guerre. Donc ça aussi, c'est en germe. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent forcément l'occasion d'avoir des films autobiographiques qui expliquent à la fois comment une cinéphilie peut naître, mais aussi comment, à travers la naissance d'un geste cinéphile, on peut aussi voir la naissance de quelque chose qui va de toute façon contaminer la société au-delà du cinéma. Les germes de la société américaine, donc de la fin des années 60 et, comme je l'ai dit, une partie des années 80, sont dans ce film qui est Panique sur Florida Beach. Un titre étonnant, puisque donc... Le titre original est Matinée, puisque donc ces doubles séances s'appelaient des Matinées. Et Dante était très surpris que le seul pays où ce titre n'ait pas été retenu était la France, alors que lui était convaincu d'avoir utilisé un titre français. sauf qu'évidemment, nous, en France, nous n'avons jamais eu ce genre de programmation, donc on ne sait pas ce que c'est qu'une matinée. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il a été traduit comme par Panique, avec un C, sur Florida Beach. Donc voilà, le film est passé effectivement inaperçu en salle. Il a gagné quand même en notoriété au fil des ans. Ça ne sera jamais un succès auprès des foules, on est bien d'accord. Mais il a gagné en notoriété parce qu'il est peut-être considéré à juste titre comme le point final de ce qu'ont été... ce qu'aujourd'hui on considère être le cinéma des années 80. Ça a mené jusque-là. Le style de Dante l'a en partie défini. Entre lui et Zemeckis, c'est à qui aurait fait le film le plus 80s. Et comme il y a encore son style de mise en scène très marqué sur Matinée, ce qui sera moins le cas d'ailleurs sur les films suivants. Soldiers, on est déjà passé à autre chose en termes de cadrage, etc. Là, on est vraiment dans un type de cadrage et de mise en scène qu'on aurait pu retrouver dans Explorers ou dans Gremlins sans aucun problème. Sans parler bien sûr de la musique de Jerry Goldsmith.
Y venir parce qu'elle joue un rôle important parce qu'en plus, il y a le score de Jerry Goldsmith et il y a aussi toutes les citations musicales.
Il y a un paquet, un nombre incalculable de citations à des films d'époque qui sont intégrés au score. Alors, il faut vraiment repérer.
Nous sommes des énormes nerds.
Les monstres attaquent la ville, etc. Sans compter que Goldsmith a débuté dans le métier sur la série La Quatrième Dimension. Donc il fait lui-même partie de ces musiciens qui ont un petit peu galéré avec des petits orchestres pour essayer de faire peur au public avec les méthodes d'époque, du début des années 60. Donc il connaît bien ces techniques-là. Et en même temps, il amène quelque chose d'énorme au niveau de cette mélancolie et de cette nostalgie, puisque sa musique, elle est vraiment très... très mélodique en fait. Et très douce par rapport à des images qui ne le sont pas toujours en fait. Donc elle est vraiment importante parce qu'elle aide le public à prendre ses aises dans cet univers, et y compris dans ces moments de tension. Dante et Goldsmith en fait se sont rencontrés sur le tournage de La Quatrième Dimension, le film, en 1984, ne se sont plus quittés depuis. Ça a été une des grandes collaborations entre un réalisateur et un compositeur jusqu'au dernier, jusqu'à le film avec les cartoons... Comment ça s'appelait Avec Bugs Bunny et Daffy Duck et machin de Joe Dante.
De Joe Dante qui s'appelait, voilà. Oui, Looney Tunes.
Looney Tunes contre-attaque, merci. Donc, voilà, qui était le dernier film de Goldsmith. Donc. Voilà, donc effectivement, on a un peu tout ça qui nous fait une espèce de chant d'adieu. Non pas aux années 60, mais aux années 80. Ouais. Donc comptez-le, voilà, si vous avez déjà toute la collection des productions Amblin, ça n'est pas une production Amblin, mais en réalité, elle en fait vraiment partie. Prenez Panic sur Florida Beach, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait trouver.
Bah, je propose qu'on le regarde.
On le regarde.
Allez, super. Merci beaucoup, Rafik. Merci au public, merci au Club de l'Étoile, merci pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.